Nous allons reprendre avec l'intervention de Philippe Julien qui nous parle de les homosexualités au pluriel.
Bon, bonsoir. Alors, peut-on parler d'un homosexuel, homme ou femme? Non, c'est pas possible. Enfin, l'invention de Freud, à l'opposé des médecins, c'est l'invention de la règle fondamentale, c'est-à-dire l'association libre. La possibilité de dire tout ce qui nous arrive dans la tête, sur le divan, en vertu de la confidentialité absolue du rapport psychanalyste-psychanalysant. Donc je peux tout lui dire parce que ça reste entre nous deux. Ça, c'est l'invention de Freud. Freud, dans ses séminaires, n'a jamais parlé d'un analysant ou d'une analysante qui était sur son divan. C'est le secret, c'est la confidence. Ça permet la liberté de parole. Voilà, la liberté d'association. C'est l'invention freudienne. Donc je ne peux pas parler. J'ai pas le droit.
Oh, ne nous faites pas ça.
J'ai pas le droit de parler d'un analysant ou d'une analysante, enfin. Elle peut être dans la salle, ici, ou il peut être dans la salle. De toute façon, c'est anti-freudien. Voilà. Contre les médecins. Purement confidentiel. Oui. Le lien analyste-analysant, Lacan l'a très bien montré par la lettre lorsqu'il a écrit le discours de l'analyste. Il l'a très bien montré. Petit a, c'est l'analyste. S barré, l'analysant. La production S1 et la vérité S2. Voilà. Voilà la relation duelle, c'est-à-dire discours, écrit par la lettre, donc discours sans parole. Voilà son invention, l'année où il enseigne l'envers de la psychanalyse. Il y a quatre relations sociales possibles entre nous. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'au cours des années 70, quand Lacan commençait un séminaire, en général, mois d'octobre, parfois novembre, mais enfin, plutôt octobre, qu'est-ce qu'il disait au début? Je vous répète ce qu'il a répété chaque année en commençant son séminaire. Je ne vous parle pas comme analyste, mais comme analysant. Eh bien, en effet, il ne pouvait être analyste que dans le rapport à un analysant, rapport privé, duel, à son bureau, dès qu'il sortait de là, il n'est plus analyste. Eh bien, c'est vrai de tous les analystes. Un analyste n'est analyste que dans son rapport à un analysant ou une analysante. En dehors de là, il ne l'est pas. Alors, je vous parle ici comme Lacan parlait dans les séminaires
Comme en analysant. Comme en analysant. C'est-à-dire, vous voyez, l'analysant, là, c'est le S barré. Eh bien, vous le mettez en position d'agent, et qu'est-ce que ça donne? S barré, S1, S2, petit a. Voilà. Donc, Lacan parlait en public comme analysant. C'est ça qu'il a répété. Plusieurs années. En dehors d'un lien, vous voyez, d'écoute privée, confidentielle, il n'est plus analyste. Il est analysant. Et ça, qu'est-ce que c'est comme discours? C'est le discours de l'hystérique. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il l'a appelé. Vous voyez, lorsque le sujet est en position d'agent. C'est ça l'invention freudienne. C'est l'analysant qui parle le premier, qui décide de quoi il va parler. Il ne répond pas à des questions d'un médecin qui parlerait en premier. Il parle de lui-même le premier. Eh bien, c'est ce que je mets en position d'agent. Le sujet en position d'agent. Dans le discours analytique, c'est à un analyste. Et là, c'est l'analysant parlant en public, en dehors de son analyste. C'est ce qu'a fait Lacan, parlant en public, quand il disait « Je ne vous parle pas ici comme un analyste, mais comme un analysant. » Pourquoi est-ce possible? Il l'a dit au moment où il a créé l'école freudienne de Paris. Il a dit « La psychanalyse a deux champs. Le champ de l'intention et le champ de l'extension. Le champ de l'intention, c'est la pratique. La pratique à deux. L'intentionnel, la clinique. Et l'extensionnel, c'est la psychanalyse en dehors de la pratique. L'extension. Alors vous avez différentes sortes d'extensions. Vous avez des séminaires, des réunions, des cartels, des articles, des bouquins. Il y en a plein là à côté. C'est la psychanalyse en extension, ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le public. C'est la psychanalyse dans la société, reconnue par l'État ou non reconnue. Ce sont les écoles dont on est membre. Ça, c'est la psychanalyse en extension. Eh bien, c'est un problème fondamental, vous voyez, cette distinction. Et ça justifie que Lacan puisse dire, quand il commençait son séminaire, « Je vous parle comme en tant qu'analysant, analysant dans la psychanalyse en extension. » Il ne s'agissait pas d'analysant parlant à un analyste, Lacan n'était plus en analyse, pas du tout. Mais il était dans la psychanalyse en extension, en tant qu'analysant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je me mets dans la psychanalyse en extension. Je ne peux pas l'éviter, puisqu'il s'agit d'un colloque. Je vais avancer en deux temps. Dans un premier temps, une description anthropologique, d'ordre culturel, de l'opinion publique sur l'homosexualité. Et puis ensuite, je passerai à ce que la psychanalyse a pu dire de
de ce qui se passe dans l'analyse d'un homosexuel ou d'une homosexuelle. Voyez, nous sommes culturellement dans un conflit de l'opinion française, et pas seulement française, mais européenne. C'est-à-dire, c'est le silence, si on parle sur l'homosexualité, alors on se divise, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est l'opposition. Voilà, c'est-à-dire il y a une contestation sur la définition. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Contestation. Voilà. C'est étrange, cette nomination homosexualité. Elle a été créée récemment, en 1860. Vous vous rendez compte, il y a un siècle et demi. Inventée par un psychiatre. Un grand psychiatre hongrois qui s'appelle Benkert. Benkert, psychiatre hongrois, a inventé ce mot homosexualité alors qu'on ne l'avait jamais employé avant. Et ce n'est qu'après, quelques années après, qu'on inventera le mot hétérosexualité. Pour les psychiatres, c'est la normalité. Voilà. Et ils inventent le mot de la normalité après. Eh ben. Eh oui. La normalité est toujours après pour un médecin. Voilà. Benkert. Eh bien, aujourd'hui, ce mot est attaqué, contesté, dénommé par la création d'une nouvelle nomination qui est née il y a une trentaine d'années et qui nous vient des États-Unis, gay. G-A-Y-S. Les gays. Voilà. Ils ont inventé eux-mêmes leur propre nom contre la psychiatrie. Voilà. Ce mot d'origine des États-Unis. En effet, si vous regardez le DSM, c'est-à-dire le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, si vous prenez le troisième volume, eh bien, qu'est-ce que vous constatez? Le mot homosexualité a disparu. Silence. Ni homosexualité, ni gay. Silence. Sur le DSM. Le DSM.
Ça a des effets, hein? Oh, ben, dis donc!
Ah, ben oui!
Bravo, monsieur Julien!
C'est un animal?
Non, on ne sait pas, on se perd en conjecture.
Vous ne savez pas si c'est un animal?
Non.
En tout cas, ce qui est absolument nouveau, vous voyez, c'est cette façon de faire silence des psychiatres américains en publiant un DSM, le troisième, où n'existe plus le mot homosexualité. Voilà. Eh bien, ce silence, c'est le silence des historiens. Des historiens sur les camps de concentration du XXe siècle, avec Hitler et Staline. En ce qui concerne les Juifs, il a fallu être patient pour pour que les historiens se mettent au travail et puissent dire en quoi a consisté la Shoah. Il a fallu attendre longtemps. Sur la déportation des homosexuels par Hitler et Staline, silence. Les historiens n'ont fait aucun travail. Rien. C'est-à-dire, on est dans l'hypothétique sur le nombre de déportations. Les chiffres supposés du nombre de morts varient entre 5 000 et 50 000, et le nombre de déportés entre 200 000 et 1 million. Oui. Et pourtant, la police française, dès juin 1940, avait mis à la disposition des Allemands les fichiers d'homosexuels fréquentant certains lieux des grandes villes, ce qui a facilité leur déportation par les Allemands. Mais combien, à quelle date, que s'est-il passé, à quel endroit, silence. Silence sur le mot dans le DSM et silence sur ce qui s'est passé lorsque Hitler et Staline ont décidé de déporter les homosexuels. Ils déportaient, je vous dirais, plutôt les hommes, les femmes un peu moins. Un peu moins. Voilà. Eh oui, c'est ce qu'a très bien montré un livre excellent de Didier Héribon qui s'appelle « Réflexion sur la question gay », paru chez Fayard en 1999, il y a 9 ans. Héribon, E-R-I-B-O-N. Eh bien, de même, lors de sa dernière interview, le 23 février 1980, cette question fut posée à Jean-Paul Sartre. Pourquoi n'y a-t-il pas un mot, dans vos écrits politiques sur l'extermination des homosexuels par Staline et Hitler ? Vous avez parlé largement de la politique des juifs, etc. Mais sur les homosexuels, pas un mot. Pourquoi, monsieur ? Sartre répond. C'est parce que j'ignorais ce type de massacre. S'ils étaient systématiques et combien ils avaient atteint de gens, je n'étais pas sûr. Les historiens en parlent peu. Voilà. Eh bien, c'est vrai encore aujourd'hui. C'est toujours vrai. Silence. Voyez, il y a donc là un conflit, voyez, entre les gays qui se montrent, qui sont sortis du placard, coming out, sortis du placard, gay pride, fierté à se montrer, à défiler dans les boulevards à Paris, régulièrement, le samedi ou le dimanche, par exemple, boulevard Saint-Germain, il y a quelques semaines, des milliers sur des camions énormes. Vous voyez le conflit entre le silence d'un côté et au contraire, le coming out, le défilé en week-end des gays. Pourquoi c'est le coming out ? Parce qu'il y a une demande d'être reconnu par la loi, par la législation. Demande de reconnaissance, demande du droit de se marier entre deux hommes ou entre deux femmes. Et si on se marie, on a le droit d'adopter des enfants. Eh bien là, c'est le conflit. La France est contre. Pourtant, le mariage existe dans certains pays d'Europe, en Espagne, en Belgique. Non. En France, on est contre. Il y a une montée de l'homophobie. Voilà. C'est pourquoi les Français ont inventé le Pax. Le Pax pour éviter le mariage. Mais le Pax est une législation pour n'importe qui. C'est pas réservé aux homosexuels. C'est une législation très... C'est pas un mariage, c'est pas un mariage. Non. C'est une entente entre deux personnes pour les questions financières. Voilà. La montée de l'homophobie. En effet, ce qui monte dans l'opinion publique française, c'est le danger de la pédophilie. De la pédophilie, c'est-à-dire d'un adulte masculin portant atteinte à un enfant masculin. Voilà. Il faut le dire, condamner le coupable. Pour sauvegarder les mineurs de moins de 15 ans, parce que cette atteinte sexuelle fait trauma sur l'enfant. Trauma. Répandu dans le privé. Eh bien, il faut le dénoncer pour arrêter cet homme qui se permet cette violence et qui veut garder cela secret dans la pudeur. Ainsi, je vous cite le texte de la loi française, l'article 227-25. Du code pénal. Condamne à la prison celui qui a exercé sans violence, une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Voilà. Voilà le nouveau code pénal, parce que ça augmente de plus en plus dans les familles. Ça peut venir du père, de l'oncle, du grand-père, ou même du frère aîné. Voilà. Vous voyez le conflit. D'une part, les gays qui se manifestent et qui veulent être reconnus publiquement et législativement. D'autre part, ceux qui se cachent et veulent rester cachés pour éviter la prison. Voilà. Ainsi, je vais partir de la notion de culture. La naissance d'une culture gay, il y a une quarantaine d'années, à partir des États-Unis. Le mot culture, au sens de Michel Foucault, veut dire une stylistique. Une stylistique. Voilà ce qu'il préférait dire, voyez. C'est un très joli mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une nouvelle forme de rapport, le queer, le bizarre, l'étrange, en ce qui concerne le genre, c'est-à-dire l'identité de masculin-féminin. Ne confondons pas homme-femme et masculin-féminin. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'identité homme-femme vient de l'organe sexuel, présence ou absence de pénis. Là, il ne s'agit pas de ça dans le gender. Le genre, c'est des traits de l'idéal du moi, du ich idéal, eh bien, qui autrefois était fixe et qui deviennent maintenant multiples et changeants. C'est de l'ordre du paraître, mais pas de l'être. C'est du théâtre, du comique, l'apparence à montrer, voix légère, voix grave. Ça veut pas dire voix légère une femme, voix grave un homme, pas du tout. Ce sont des traits, justement, qui passent de l'un à l'autre, qui sont seulement de l'ordre du gender. La robe, le pantalon, la robe qui disparaît chez les femmes au profit du pantalon masculin. Le talon de la chaussure, les cheveux longs, les cheveux courts. Ah, le maquillage, les bijoux. C'est ainsi, vous voyez, que les traits, non pas de l'homme et de la femme, mais du masculin et du féminin, naissent de nous, selon de nouvelles présentations, selon de nouveaux traits, se déstabilisent, alors que pendant des siècles, ces traits étaient toujours stables. La femme devait présenter tel genre féminin et l'homme tel genre masculin. Non, il y a échange. Voilà ce qu'apportent les gays. Les jeunes en France de 17 à 20 ans sont de nombreux gays qui apportent cette nouveauté. Les couturiers le savent, ils inventent des costumes qui ne sont pas réservés aux hommes ou réservés aux femmes, non, mais qui ont des traits qu'on échange, qu'on déstabilise. Les coiffeurs aussi. Voilà la nouveauté de notre histoire. Il s'agit là d'une invention. C'est ce que montre très bien Didier Héribon dans son livre « Réflexion sur la question gay ». Il s'agit là, suivant le mot de Foucault, d'une stylistique, c'est-à-dire de la conjonction entre l'esthétique et l'érotique. Dans le public. C'est pourquoi j'ai parlé de costume, j'ai parlé de coiffure. Dans le public. C'est contre la notion de nature. Il y aurait une nature masculine et une nature féminine. Non. La nature masculine, c'est être actif, et la nature féminine, être passif. C'est fini, ça. La nouvelle culture a fait éclater ces définitions. Eh bien, certains psychanalystes interprètent en disant « c'est le triomphe public de l'hystérie », c'est-à-dire justement de l'invention des apparences. Ah, du gender. Mais cette opposition, l'opposition contre cette invention se développe en France. Elle vient au contraire défendre le stade, l'immuable, l'autorité. Une opposition au changement. Regardez, le changement, ça fait le développement du sida. Eh oui! Dans les saunas à Paris, hein, dans la région du Marais, c'est là qu'on attrape le sauna pour le sida. Ah oui. Voilà. Donc vous avez une homophobie de plus en plus forte, et contre cette homophobie, la naissance d'une nouvelle culture où le genre, le gender, est déstabilisé. Voilà. Alors, quelle méthode je vais prendre pour commencer mon exposé? Puisque maintenant, il est 5h10, monsieur.
Comme le temps passe.
Comme le temps passe. Je vous ai demandé, s'il vous plaît, une heure de parole. Alors, je vais utiliser deux méthodes. Je vais prendre tout mon temps, parce que j'ai encore du temps. Ma première méthode sera de vous faire l'histoire culturelle de la relation sexuelle dans notre civilisation. Depuis l'Antiquité des Grecs, la relation entre hommes et entre femmes. Et puis ensuite, je passerai à une deuxième méthode. En conclusion, je vous montrerai ce que la psychanalyse, l'expérience analytique du divan, apporte à un ou une homosexuelle. Et j'appuierai ce témoignage du témoignage de grands écrivains français qui ont montré leur homosexualité en la publiant dans des livres. Ce sera après, en finale. Donc d'abord, oui, vous disiez.
Non, je m'en occuperai après. Pas de problème.
Alors, d'abord dans l'Antiquité. Vous voyez, ce n'est pas... C'est le rapport entre un homme adulte et un adolescent. Ça a commencé à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, surtout chez les hommes. Vous savez, les artistes ont montré abondamment chez les Grecs la beauté des garçons. Si vous regardez les vases grecs dans les musées, si vous lisez la littérature, ce que l'on met en avant, c'est la beauté de l'adolescent, du jeune garçon. L'enjeu, c'est ce qu'on appelle la pederasty. Erasty, c'est désir, paidos, l'enfant, le garçon. Il y a une transmission du désir, de l'éros, du désir sexuel par un actif à un passif. Qui donc est actif? C'est l'adulte. Et passif, c'est l'adolescent, le païs. Comment se fait cette transmission? C'est-à-dire que Platon l'a montré dans le banquet, les Romaines devient Erastes. Eromenos, Erastes. Erastes veut dire désirant et Eromène, désirable. Voilà. Désirable. Eh bien, le jeune homme est beau, il est désirable, et l'adulte est le désirant. Erastes, en grec. C'est ce que montre très bien Platon dans son livre intitulé Le Banquet, où il nous montre que cette transmission a eu lieu entre Socrate et Alcibiade. Socrate étant l'Erastès et Alcibiade le désirable, l'Eroménos. Voilà. Vous voyez, c'est en effet la naissance biologiquement crée en nous des besoins, mais ne crée pas le désir. Le désir naît après, à partir d'une rencontre, n'est-ce pas, c'est ce que la psychanalyse répète, de la rencontre avec ses parents. Eh bien là, il s'agit de la rencontre avec un adulte qui est véritablement un désirant et qui sait comment faire pour éveiller chez l'adolescent le désir sexuel par ses caresses, ses paroles, sa douceur, son intimité. Voilà, c'est ce qu'a montré Platon dans Le Banquet et c'est ce que Lacan a présenté dans son séminaire. Il a utilisé Le Banquet de Platon dans le séminaire sur le transfert. C'est-à-dire transfert, c'est transmission du désir de l'analyste à un analysant qui veut être désirable, mais qui n'est pas désirant. C'est ça qui va pas. Donc, vous voyez, il y a un passage là, de gauche à droite, qui est la transmission du désir de l'un à l'autre, qui deviendra désirant à son tour, alors qu'il ne veut au début de son analyse seulement être désirable. Eh oui, c'est ça la névrose. Et Platon disait, c'est ainsi que des garçons, je cite, peuvent devenir de vrais hommes politiques. Voilà, grâce à cette initiation pédagogique d'un adulte. Donc ici, pas de prostitution. Seulement, dans la prostitution, il n'y a que la jouissance de l'autre, de l'adulte. Là, non. La prostitution est sans transmission. Alors qu'il s'agit ici d'un processus d'identification. Comment devenir vraiment un homme? Bien, je ne le peux que grâce à celui qui est tourné vers moi et qui s'intéresse à moi. Voilà la position de l'Antiquité grecque. Oui, que le garçon admire l'adulte, soit séduit par lui, pour devenir désirant. Sinon, ce serait une pure violence entre les adultes et les jeunes, actifs, passifs. Non, il faut passer de la passivité à l'activité. L'enjeu, en effet, et de quitter sa féminité et devenir un vrai homme. Voilà la position ancienne qui nous sont transmises, surtout par les philosophes et les artistes grecs. Platon en a beaucoup parlé. Je passe maintenant à une autre période ultérieure, le christianisme avec le judaïsme. Dans le judaïsme, alors, vous avez au livre intitulé « Le Lévitique », au chapitre 18, ce texte que je vous lis. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Deuxième texte, au chapitre 20. « L'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme... » C'est une abomination. C'est une abomination qu'ils ont tous deux commise. Ils devront mourir, condamnés à mort. Leur sang retombera sur eux. Voilà. Vous voyez, Toeva, en hébreu, abomination. Voilà l'originalité du peuple juif contre le peuple païen, contre les Grecs. C'est la nouveauté absolue de la naissance du judaïsme. Eh bien, le christianisme va reprendre cela. Le saint Paul, qui est un juif, dans son épître aux Romains, au chapitre 1er, et au verset 26-27, parlant des païens, « Voilà pourquoi Dieu les a livrés à de honteuses passions. Leurs femmes, en effet, ont délaissé les relations naturelles pour celles qui sont contre nature. Et parallèlement, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés de désir les uns pour les autres, ayant d'homme à homme des rapports infâmes. » Voilà, ça c'est la définition, c'est l'infamie. infâme, l'infamie, et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement, c'est-à-dire la condamnation. Voilà, vous voyez, la rencontre brutale, conflictuelle, non pas celle d'aujourd'hui dont je vous ai parlé, mais celle qui est très ancienne, entre le judaïsme et le paganisme, en particulier les Grecs et les Romains. Voilà. Et oui. Par contre, les quatre évangiles, silence. Pas un seul mot sur cette rencontre entre deux hommes ou deux femmes. Silence total. Pas de mot disant homosexualité parmi les fautes citées dans les quatre évangiles. Par contre, il est parlé beaucoup de l'hétérosexualité, du mariage, et oui, et la sexualité, là, dans les évangiles, a pour finalité la procréation. Procréer. Voilà. Voilà la finalité. Ce n'est pas la jouissance, c'est la procréation. Voilà ce que la théologie, pendant des siècles, va reprendre. Vous voyez, contre la contraception, c'est que la cause finale, comme ils disent, de la sexualité, c'est de faire des enfants. C'est la procréation. Voilà. Mais, par contre, voilà, il va naître au IVe siècle après Jésus-Christ, une nouvelle culture qui va créer une dualité sur la définition de l'amour. Une nouvelle culture. Il n'y a pas que l'amour sexuel. Il y a l'amour d'amitié entre deux de même sexe. Et elle est reconnue publiquement par une célébration liturgique dirigée par un rituel ecclésial d'ordre public de deux hommes qui s'engagent l'un à l'égard de l'autre ou de deux femmes. Amour hors sexe, sans sexualité. Amour pur, amour d'amitié. Voilà ce qui va naître en Europe. Et il faut appel, évidemment, à des exemples de la Bible. L'exemple cité le plus souvent, c'est l'amour entre ces deux hommes qui s'appellent David et Jonathan. Ah, voilà ce que dit David après la mort de son ami. Jonathan, par ta mort, je suis navré. J'ai le cœur serré à cause de toi. Tu m'étais délicieusement cher. Ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Plus merveilleuse que l'amour des femmes. Voilà. Eh bien, cela, vous voyez, c'est ce qui est prêché dans ces célébrations d'union entre deux personnes de même sexe. Ils vivent ensemble, ils partagent tout, et ils prennent comme modèle ce que les sculpteurs vont montrer, ce qui est arrivé entre Jésus et l'apôtre Jean. Les sculpteurs ont montré Jésus assis, et à côté de lui, à sa droite, l'apôtre Jean, qui baisse sa tête sur l'épaule de Jésus. Il baisse et appuie sa tête sur l'épaule de Jésus. En effet, c'est l'apôtre que Jésus appelle, que les évangiles appellent, l'apôtre que Jésus aimait. Et c'est pourquoi, sur la croix, avant de mourir, il les voit tous les deux, Marie et l'apôtre Jean, Marie, sa mère, et l'apôtre Jean, et il dit cette phrase à sa mère, Maman, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Ce n'est pas de l'homosexualité, mais c'est un amour entre deux hommes, entre Jésus et Jean, puisque Jean doit remplacer Jésus auprès de Marie. Voilà, et bien ça c'est dans le texte, c'est pas une invention, c'est dans le texte, c'est ce que Jésus aurait dit avant de mourir. Voilà, et bien, ce John Boswell, un Américain qui enseigne à Chicago, a eu le courage de publier la traduction en anglais, et ensuite on l'a fait en français, des textes cérémoniaux liturgiques de cette union, de ce mariage, de cette union entre deux personnes de même sexe qui est née à partir du 4e siècle et qui a duré jusqu'au 11e siècle, du 4e au 11e. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ça s'est arrêté au 11e. Eh bien voilà, les unions de même sexe, par John Boswell. Voilà. C'est un ouvrage, vous voyez, qui est assez étonnant, car il a sorti des placards tous les textes liturgiques, les prières que le prêtre et le peuple utilisaient pendant la cérémonie d'union entre deux hommes ou entre deux femmes. Par exemple, Seigneur notre Dieu, glorifié dans l'ensemble des saints, glorifié dans l'assemblée des saints, toi qui règnes grand et imposant sur tout ce qui t'entoure, bénis tes serviteurs, N et N. Il n'y a pas les prénoms, il y a N et N. Accorde-leur la connaissance de ton Esprit Saint. Guide-les dans ta sainte crainte, accorde-leur la joie, afin qu'ils soient unis dans l'esprit davantage que dans la chair. Voyez, c'est un amour d'amitié non sexuel, pas dans la chair. Parce que c'est toi qui bénis et sanctifie ceux qui croient en toi et que la gloire éternelle t'appartient. Voilà, ça ce qui est nouveau, vous voyez, après des siècles de silence, grâce à Boswell, nous pouvons acheter chez Fayard, depuis 1999, voyez ce gros volume, qui vous donne les cérémonies continuelles pendant des siècles qui ont eu lieu en Europe sous l'influence de l'Église. Mais voilà qu'au XIIe siècle, ça éclate. C'est la révolte. Ça suffit. C'est du mensonge. Cette union comme ça, publique, rituelle, glorifiée par l'Église, c'est des mensonges. Il faut arrêter ça. Donc le XIIe siècle, c'est la révolte de l'opinion publique contre les curés, contre l'Église. Cet amour d'amitié ne reste pas purement spirituel, c'est de la blague. C'est sexuel. Seulement c'est caché. Sexuel chez eux. Ah, pas dans le public, non. Mais chez eux. Par exemple, entre deux moines, entre deux curés. Bon, alors, il y a une condamnation qui va naître. Une condamnation publique de l'homosexualité par l'Église et par l'État. Vous voyez, avec cette révolte du XIIe siècle. Vous voyez, la culture éclate et on passe à une autre culture de condamnation de tout rapport entre deux hommes ou entre deux femmes. Et quelle est la punition? C'est la castration, c'est-à-dire couper le sexe. On leur coupe le sexe. D'abord l'État romain, grec, turc, français, espagnol, anglais, puis ensuite l'Église, en ce qui concerne les prêtres qui sont soupçonnés de vivre à deux. Car les prêtres ont souvent de la peine à vivre tout seuls, sans femme. Alors on vit avec un copain. Mais oui, mais attention, qu'est-ce qu'il faut ensemble? Bon, donc condamnation. On invente un nouveau mot, le mot sodomite. Le mot sodomite, vous voyez, est un mot qui vient de la ville de Sodome. Sodome, c'est une ville dont parle la Bible. C'est une ville où les hommes, les citoyens, étaient assez violents vis-à-vis des gens qui passaient par là, des voyageurs, des visiteurs, vous voyez, qui venaient de l'extérieur. Les hommes les violaient et les enculaient. Et à Gomorre, c'était pas les hommes, mais les femmes. C'est ainsi que, dans le langage ecclésial, on invente au XIIe siècle le mot sodomite, c'est-à-dire celui qui imite certains citoyens de Sodome. Voilà. Et celle qui imite les femmes qui vivaient la ville de Gomorre. Et pour ce que la Bible prêche, montre dans le texte, c'est-à-dire, si vous voulez le lire, le livre de la Genèse au chapitre 12, pour punir ces enculages, Dieu a brûlé les deux villes. Sodome a disparu, incendié, et Gomorre aussi. Voilà. Voilà, vous voyez, la punition dans le judaïsme. Punition qui vient de Dieu lui-même, de Yahvé, qui a brûlé Sodome et Gomorre. Vous voyez le tournant du XIe siècle, alors que de IVe au XIe, au contraire, on faisait des unions de même sexe, à partir du XIIe, c'est terminé. L'homme est d'abord condamné à être castré, et puis ensuite, il était condamné à être brûlé. Comme Sodome a été brûlé, ben le sodomite va être brûlé. En public, hein, en public. Voilà. Ce qui est condamné, vous voyez, c'est, en effet, la passivité. Se laisser enculer par un homme, c'est être efféminé, c'est être passif. Donc vous avez là, vous voyez, dans la tradition européenne, un conflit entre deux formes d'amour. L'amour d'amitié, l'amour pur, sans érotisme, et l'amour sexuel, l'homosexualité, soit sodomite, soit lesbienne. Pourquoi je dis lesbienne? Je devrais dire gomoréenne. Eh bien, on dit lesbienne parce qu'elle vivait entre elles, dans la petite île de Lesbos, près de la Grèce, une petite île où les femmes vivaient entre elles, lesbiennes. Et elles étaient inspirées par une poétesse merveilleuse, Sappho. Sappho, la poétesse grecque. Voilà. Eh bien, voyez, c'est là le conflit. C'est le conflit avec le soupçon. Lacan a montré, en effet, qu'il y a une jouissance non phallique, une jouissance qu'on éprouve, mais dont on ne sait rien. C'est-à-dire, on peut seulement dire, ce n'est pas phallique. Jouissance non phallique. On peut seulement utiliser une négation, mais on ne peut pas la qualifier. Lacan a développé ça dans son séminaire Encore, où la première de couverture vous montre Thérèse d'Avila dans la transverbération, quand le grand sculpteur Bernin à Rome a montré ça, un ange lui enfonce une épée dans les entrailles, jusqu'au fond des entrailles, et la fait jouir. Elle raconte ça elle-même dans sa propre biographie. Lacan a lu ça et dit, voyez, c'est contre Marie Bonaparte, il écrit un article contre elle qui dit, c'est une jouissance sexuelle, phallique, qu'elle éprouve. Lacan dit non, c'est une jouissance autre que phallique, purement indéfinissable. Voilà, et c'est ça qu'il dit qu'on trouve chez les mystiques. Chez les mystiques, et il donne comme exemple Jean de la Croix, Advige d'Anvers, et il ajoute Lacan lui-même en bas des pages. Voilà, et un homme qu'il cite souvent, Angelus Silesius. Ça, vous voyez, c'est la tendance de Lacan, à partir de ce séminaire encore, de montrer qu'il y a deux sortes de jouissances. Il n'y a pas que la phallique, il y en a une autre. Il y en a une autre à respecter, et qui, les mystiques en ont très bien parlé, mais c'est pas réservé aux mystiques, hein? Moi aussi, Lacan, je suis de ce côté-là. Vous voyez, il parle de lui. Vous pouvez lire ça à sa page 70 et 71. 70 et 71. Ainsi, dans la poésie du Moyen-Âge, la littérature, vous voyez des hommes comme Abélard, au XIIe siècle, Saint Bernard, Saint Anselme, qui vous parlent de cette jouissance non phallique. Par exemple, dans le livre de Boswell, intitulé « Christianisme et homosexualité », paru chez Gallimard, si je regarde à la page 289, je lis ceci. « Nous pouvons jouir de ce bonheur avec ceux que nous aimons, non seulement par l'esprit, mais aussi par le cœur. Car certains nous sont unis plus intimement et passionnément que d'autres par l'aimable bien d'une amitié spirituelle. » Amitié spirituelle, voilà. « Et de peur que cet amour saint, sacré, ne paraisse inconvenant à tel ou tel, Jésus lui-même, qui fut l'un de nous en toutes choses, patient et pitoyable à toutes nos faiblesses, l'a transfiguré par l'expression de son propre amour. » Car il a permis à un seul, non pas à tous, de reposer sur son sein, en signe de l'amour tout particulier qu'il lui portait, de sorte que la tête vierge, vous voyez, de l'apôtre Jean, la tête vierge, fut soutenue par les fleurs de son sein vierge, et plus ils étaient proches, plus abondamment les secrets parfumés du mariage céleste imprégnait leur amour vierge de la suave senteur d'ointement spirituel. » Voilà. Eh bien, c'est un signe, voyez, un privilège que Jean, disciple que Jésus aimait, privilège de Jean, et que les théologiens, voyez, comme Saint Bernard, nous montre au XIIe siècle. Mais à partir du XIIIe siècle, le pouvoir civil et ecclésiastique va intervenir et va légiférer sur l'homosexualité en disant que c'est contre nature. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des deux punitions, couper le sexe, castration, et la mort, condamnation à mort, aussi pour l'homosexualité féminine. Là, je passe, j'avance, je ne vous donne pas les citations. Voilà, telle est la théologie du Moyen-Âge, théologie politique, parce que la sexualité n'est pas au service de la jouissance, elle est au service de la procréation, de faire des enfants. Voilà, c'est la théologie de Saint Thomas. Vous voyez, ce qu'il appelle le naturel. Le naturel, c'est la volonté de Dieu, c'est de propager l'espèce humaine. Voilà, contre cela, vous avez ceux qui font la promotion de la contraception et les homosexuels qui ne font pas d'enfants. Donc vous avez un conflit, là, vous voyez, dans toute l'Europe, avec l'intervention hostile et publique de l'État et de l'Église. Bon, eh bien, il me reste un peu de temps, hein ? Un peu plus, un quart d'heure, parce que je vais passer à la psychanalyse. La psychanalyse maintenant. Qu'est-ce que la psychanalyse a apporté ? Eh bien, je cite Freud. Ce qui se passe chez les psychanalystes, c'est ce que Freud appelle le Wendung. Le Wendung. Wendung. C'est dans son fameux livre, vous voyez, sur la société, qui s'appelle « Psychologie des foules et analyse du moi ». Je cite « Le jeune homme a été fixé à sa mère au sens du complexe d'Édipe, d'une manière inhabituellement longue et intense. Mais bien enfin, la puberté est enfin achevée, le temps d'échanger la mère contre un autre objet sexuel » Il se produit alors une Wendung, c'est-à-dire un retournement. Un retournement. Ce que sa mère a fait sur lui, lui va le faire comme sa mère à l'égard d'un autre homme. Retournement soudain, l'adolescent n'abandonne pas sa mère mais s'identifie à elle, se transforme en elle et recherche maintenant des objets qui puisse remplacer pour lui son propre moi. Voilà, des jeunes hommes, des adolescents, et qu'ils puissent aimer et choyer comme, de la même manière qu'il avait fait l'expérience grâce à sa mère. Donc vous avez là, vous voyez, un retournement. Un retournement en trois temps. Le premier temps, vient de la mère qui jouit du corps de son enfant, de son garçon. Alors, ça peut être le père pour la fille et la mère pour le fils. Voilà ce que montre l'expérience analytique des homosexuels, c'est qu'ils ont vécu pendant leur enfance et leur adolescence une toute-puissance, si c'est un homme, de sa mère, si c'est une femme, de son père, qui jouissait de leur corps intimement, intimement, avec beaucoup de douceur, d'intimité. Pas de violence, non. De la force, oui, de la force, mais pas de violence. C'était la jouissance de l'adulte. La mère jouissait de son fils beaucoup plus que de son mari. Tous les exemples que j'ai me confirment cela. La mère jouissait bien plus de son fils que de son mari. Et de même, le père vis-à-vis de sa fille jouissait bien plus de caresser le corps de sa fille que de jouir de sa femme. Voilà. Voilà ce mouvement. Premier mouvement. Deuxième mouvement. Identification. Troisième mouvement, on se tourne vers un, si on est un homme
vers un autre homme, si on est une femme, vers une autre femme. Identification à la mère si on est le fils, au père si on est la fille. Voilà, voilà ce que la clinique nous montre continuellement. Cela, je vous l'assure, Freud lui-même l'a dit dans son fameux article. Dans son fameux article sur le lot de 1920, psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine. Eh bien, la cause, ça ne vient pas de la mère, mais du père. Voilà. Les trois temps. Voilà les trois temps du Wandung. Voilà. Alors, qu'est-ce que amène la psychanalyse ? Eh bien, justement, c'est la mise en cause de l'identification. Pour ne pas faire sur un autre ce que la mère a fait sur moi quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Mais c'est une psychanalyse longue, hein. Ça ne se fait pas en quelques mois. Très longue. La mise en cause de l'identification de la fille au père et du fils à la mère. Et alors, comment ? Oui, j'avance. J'avance. Et cette rupture d'identification nous amène à deux solutions. À l'homophilie, c'est-à-dire une relation hors sexe, avec un autre de même sexe, mais amour, lien amoureux, non sexuel. Voilà une des premières conclusions que donne la psychanalyse. Une deuxième, c'est pas chez tous, mais chez certains, la découverte de l'hétérosexualité. Le passage à l'hétéro par le complexe d'Édipe. Parce que ce qui fait passer à l'hétérosexualité, c'est ce qu'a inventé Freud, c'est le complexe d'Édipe. Autrement dit, naturellement parlant, un garçon n'a pas de désir pour une fille et une fille pour un garçon. Non, il n'y a rien de naturel dans la sexualité. Ce n'est pas comme le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de boire, ça c'est inné. Mais l'hétérosexualité n'est pas innée. On la reçoit par le complexe d'Édipe, c'est-à-dire par ses parents, par la parentalité. Il n'y a pas de désir sexuel inné, hétéro. Non. On le devient lentement, grâce à l'Édipe, lentement. Et l'homosexualité, justement, c'est qu'il n'y a pas eu de complexe d'Édipe. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu, en raison de la position de la mère vis-à-vis du fils et du père vis-à-vis de la fille, il n'y a d'Édipe que si la mère est la femme d'un homme et si le père est l'homme d'une femme. C'est ça les conditions de l'Édipe qu'a répété Lacan. C'est que la conjugalité est au fondement de la parentalité et non pas l'inverse. Il l'a répété, répété sans fin. Eh bien, c'est ça qui est la cause, vous voyez, qu'en fin d'analyse, un homosexuel, au lieu de passer à l'homophilie, à un amour de pure amitié sans sexe, peut devenir hétérosexuel. Ça peut être l'une des conclusions. Alors, si j'avais eu le temps, je vous aurais présenté le témoignage magnifique, très clair, de deux grands écrivains français homosexuels qui ont parlé de leur enfance et de leur passage à l'homosexualité, André Gide et Henri de Monterland. Ils ont été d'une honnêteté extraordinaire. Henri de Monterland, dans son livre intitulé « Les garçons ».
Henri de Montherlant, quand il était enfant et qu'il revenait du collège, vers 5h30, sa mère lui disait « Viens, mon chéri, viens !» parce qu'elle était étendue dans son lit. Les médecins lui avaient interdit de se mettre vertical. Elle devait rester couchée tout le temps. Donc elle s'ennuyait. Elle vient, mon chéri. Elle lui disait de s'approcher et de s'allonger le long de son corps. Et c'est là qu'elle le caressait. Tous les soirs. Tous les soirs. Et ainsi, devenu adulte, il fera de même Wendung avec des garçons qu'il rencontre dans certains quartiers le soir, dans certains quartiers de Paris, où il rencontre des jeunes garçons. Voilà, André Gide racontera la même chose. Simon Terland est obligé de s'arrêter parce qu'un jour, il y a un homme qui a voulu protéger le garçon et qui s'est tourné vers Montherlant et lui a donné un coup de poing dans l'œil et il est devenu aveugle, d'un œil. Donc, étant devenu aveugle, d'un œil, il a décidé de se suicider. Voilà. Quant à André Gide, ça a été beaucoup mieux. Il a fait un mariage blanc avec sa cousine, sans sexe, et il a joui de jeunes garçons qu'il rencontrait de temps en temps. Voilà, je vous donne pas les textes parce que je n'ai pas le temps, c'est pareil, il faut s'arrêter. Mais enfin, il y a d'autres témoignages, il y a Marcel Proust, que vous connaissez bien, il y a Jean Genet, il y en a beaucoup, vous voyez. Et chaque fois, je retrouve la même loi, c'est-à-dire ce trajet d'une descente, une montée, et une redescente. Les trois temps. Bon. Descente, montée, descente. Voilà. Eh bien, je suis obligé de terminer.
Merci. Merci, Philippe. Y a-t-il... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des commentaires avant qu'on... On passe à la dernière petite conclusion. Oui ?
C'est cette question de Sodome dans la Bible. Il y a quand même la discussion d'Abraham et Dieu. Et Abraham, et la question porte sur juste. S'il y avait un seul juste.
Un quoi ?
Un juste.
Il y a juste comment ?
Voilà, Dieu discute avec Abraham parce que Abraham, c'était ses frères, ils avaient décidé, Abraham d'un côté.
À Sodome ?
Oui. Alors avant, ils étaient divisés. Enfin, les pères étaient restés. Ensuite, Abraham, enfin, c'est comme les bandes nomades, pour les ressources, il faut se diviser. Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient été dans les montagnes. Les autres de ses frères d'Abraham, enfin, les siens,
Oui.
Et donc, donc Dieu est furieux et il dit à Abraham, je suis furieux. Et Abraham dit, mais oui, mais ça, est-ce que... Et juste, il descend, et s'il n'y en avait qu'un seul, de juste encore, est-ce que vous allez mettre le feu,
Oui, mais c'est à cause des péchés, si Dieu brûle la ville, c'est à cause de la luxure des sodomites.
Voilà, oui. Mais est-ce que c'est le péché? Enfin, que voilà, c'est la même chose au XIIe siècle.
C'est ainsi que ça a été interprété après coup. Après coup, ça a été interprété comme, non pas la luxure en général, mais telle luxure, vous voyez, l'activité d'un homme qui encule un autre homme. Voilà, ça a été donné. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, vous voyez, il y a eu une interprétation nouvelle de le mot sodomite est né, vous voyez, sans majuscule, sodomite, pour définir cette relation sexuelle. Mais ce n'est pas, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas dans le texte de la Bible, c'est l'interprétation donnée à partir du XIIe siècle. Voyez.
Non, ce que je me demande, c'est si c'est pas ces fameux péchés capitaux aussi, si c'est pas une question de l'exploiter, les effets, de les exploiter. Parce que ça se retrouve avec la question aussi des charivaris, des cocus. Bon, mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien faire? Pourquoi faut-il faire un tel cirque pour quelqu'un qui serait cocu? Bon, voilà. J'y me semble à l'heure actuelle. Il me semble que c'est pour des raisons qui vont au-delà du simple fait. Qui sont qu'il se produit d'autres faits dont on peut juger. Créer des ruses de bandits, dont on peut créer des pièges de braquage.
C'est ça.
Ouais.
Et il y a eu une interprétation, vous voyez, ensuite, tardive, au Moyen-Âge seulement, tardive.
Et il me semble donc cette idée de juste, c'était déjà ça le point. Il me semble que ça voilà, gagnerait ouais, à être précisé.
Précisé, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions précisé. Oui. Attends, oui.
Oui, je voudrais que vous, si vous pouvez revenir sur la question de l'homosexualité. Vous avez cité les Grecs dans la religion juive et chrétienne, et je m'attendais à ce que vous arriviez à la religion musulmane. Et vous ne l'avez pas abordé.
Non, je ne l'ai pas abordé.
Je pense que ça mérite quand même d'être évoqué dans la mesure où le problème pèse très très lourdement sur les sociétés musulmanes à travers le voile, les différents voiles,
oui, oui.
La séparation des sexes.
Parce
que je pense que dans les sociétés occidentales, il n'y a pas eu cette séparation, la mixité. Je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments pour avancer à partir de quand a commencé cette mixité. Mais dans les religions, dans les sociétés musulmanes, cette mixité
La mixité est moindre.
C'est ça, voilà. Alors,
la mixité est moindre, oui. Mais justement, il faut bien distinguer le privé et le public, vous voyez, dans la religion musulmane.
Le monde des cloîtres, vous avez dit.
Le privé et le public.
Oui, enfin, il y a toujours eu l'homosexualité dans les cloîtres. Hein,
oui,
les
c'est
cloîtres,
ça. Les cloîtres.
Les cloîtres, bon, évoqués par.
Mais ça reste privé.
C'est ça. Mais dans les sociétés musulmanes, ces cloîtres persistent, surtout dans les séparations hommes-femmes.
C'est ça.
Ouais. Parce que ce n'est pas une défense qui, en même temps, accroît les pratiques sexuelles.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Paul-Laurent Assoun.
Oui, je voulais faire une remarque, en fait, il y a peut-être eu un raccourci à la fin, sur le point qui était évidemment le plus important, c'est-à-dire le moment décisif du choix d'objet homosexuel chez le garçon. Ce texte de Freud étant décisif, et vous l'avez très bien commenté, mais à un certain moment dans votre exposé, il y avait presque l'idée que l'Œdipe est l'entrée dans le choix d'objet, et qu'il y aurait une sorte d'homosexualité naturelle, originaire, et qu'au fond, l'Œdipe, ça serait seulement pour les hétérosexuels. C'est comme si il y avait une formule où il me semble qu'au contraire, le moment homosexuel, du moins névrotique, puisque de toute façon il n'y a pas de structure homosexuelle, mais en tout cas dans le cas de la jeune homosexuelle, c'est bien au cœur du conflit œdipien qu'elle devient homosexuelle. Donc on pourrait entendre dans votre exposé, c'était juste un raccourci, enfin, qu'au fond, la seule voie d'entrée royale œdipienne, c'est l'hétérosexualité. Alors, il est vrai que ce dont je parle, c'est de l'homosexualité névrotique. Peut-être qu'il aurait fallu réfracter l'homosexualité d'après les...
C'est pas naturel, justement. Qu'il s'agisse d'homosexualité ou d'hétéro, ce n'est pas naturel.
Oui,
ça dépend du rapport de la mère au garçon et du père à la fille. C'est pas de l'Œdipe, ça, bien sûr, ça fait pas passer à l'hétérosexualité. Mais ce n'est pas naturel. Ça dépend de leur façon de se conduire et de jouir du corps de son enfant. Vous voyez? C'est pas naturel. C'est de l'ordre de l'événement. Et dans la psychanalyse, les rêves et les souvenirs, justement, apporte ces événements comme ça qui ont eu lieu et qui auraient pu ne pas avoir lieu. D'avoir un père qui préfère caresser sa fille plutôt que sa femme, et une mère caresser son fils plutôt que son mari. Ce sont des choses, vous voyez, qui se retrouvent au cours de l'analyse et que j'appelle de l'événementiel. Voilà, c'est pas naturel, c'est événementiel.
Juste un dernier mot, il aurait été intéressant de comparer dans l'homosexualité et l'hétérosexualité la dialectique entre le désir et la jouissance. Quoi. Voilà.
Ah oui, voilà. Oui. Parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pris le temps de vous parler d'une jouissance non sexuelle, non phallique, vous voyez, parce qu'on en parle très peu. Et je vous ai cité le fameux séminaire de Lacan, où il invente cette autre jouissance non sexuelle, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé, c'est extrêmement important. Et ce qui est essentiel, vous voyez, c'est qu'il répète toujours la même chose. C'est une jouissance qu'on éprouve, mais dont on ne sait rien. C'est-à-dire, on ne peut pas la définir. On peut seulement dire non, pas phallique. Eh bien ça, vous savez, c'est la fin de l'enseignement de Lacan. Hein. C'est tardif. C'est le livre 20. Et c'est très important. Il parle même de lui-même, vous voyez, à la page que je vous ai indiquée. Vous voyez. Et ça, c'est très important parce qu'il fera un très long commentaire de Thérèse d'Avila, de ce qu'elle dit, n'est-ce pas, à propos de la transverbération. Et le commentaire que fait la psychanalyste Marie Bonaparte en disant « c'est sexuel ». Elle raconte une jouissance sexuelle. Et Lacan lui dit « non, jouissance physique, certes, oui, mais non sexuelle. » Et il fera tout un article qu'il publiera dans les revues, une revue de psychanalyse, contre Marie Bonaparte. Donc vous voyez, il y a un très grand enjeu là-dessous, là. C'est très important, ça. Et c'est cette dualité dont je vous ai parlé tout au long, entre les deux sortes d'amour. L'amour des unions de même sexe du 4e au 11e siècle et l'amour sexuel qui sera condamné à mort. Vous voyez, il y a cet équivoque, vous voyez, chez les autorités civiles et religieuses. Civiles et religieuses, vous voyez, c'est là où il y a l'équivoque. Eh bien, cet équivoque, nous la connaissons aujourd'hui en France à propos des gays. C'est la guerre. C'est la guerre dans l'opinion publique, à propos des gays et de la sauvegarde des enfants. Prenez par exemple le livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Harcèlement à l'école », vous voyez, où il s'agit là, en effet, d'une recherche de condamnation, alors que les enseignants ne savent pas quoi faire contre ces harcèlements. Que faut-il faire? Eh bien, voilà, ça c'est une question très actuelle. Et oui.
On va être obligé d'arrêter là. Merci, Philippe Julien. Je prends juste 5 ou 10 minutes, pas plus, je vous promets, pour conclure. Je remercie d'abord tous les intervenants et Griselda Sarmiento qui a organisé ce colloque. Quelques mots, pour revenir un peu, avant de revenir un petit peu sur le titre, là, la jouissance dans la logique de la psychanalyse, simplement un petit mot, parce que 2-3 personnes m'ont questionné sur le petit dessin que j'avais fait tout à l'heure, sur la coupure ou le phallus. Il n'y a pas de rapport sexuel. Hein. C'est cette phrase extrêmement énigmatique de Lacan. Elle est à prendre de plusieurs façons, mais elle est aussi à prendre un petit peu comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il n'y a pas de rapport, à savoir qu'on ne peut pas mettre en rapport l'homme et la femme, les superposer, parce qu'il y a un petit objet, ce un qui était indiqué, qui dépasse et qui fait qu'il y a une impossibilité d'une équivalence entre les deux sexes. Et c'est pour bon pour ceux effectivement qui ne sont pas versés dans la dans ce que c'est que les nombres réels, si vous prenez tout simplement une règle hein, qui est graduée hein, entre 0 et puis des qui a un 1 quelque part avant le 2, si vous voulez la couper en deux et vous voulez pouvoir encore lire le chiffre 1 une fois que vous l'avez coupé, vous pouvez pas le lire des deux côtés. Vous êtes obligé quand vous coupez cette règle de décider de quel côté vous allez encore pouvoir lire le chiffre 1. C'est tout ce que ça dit, enfin, c'est ça, il me semble que ça dit, l'impossible du rapport sexuel à cause de ce phallus. Bon, voilà. Un dernier mot sur, donc, pour reprendre le titre du colloque, je dirais plutôt donc les jouissances dans la logique de la psychanalyse. Ce matin, je vous ai lu rapidement une annonce à la Prévert de 15 ou 16 modes de jouissance. Je veux juste parler en quelques mots de 4 de celles-ci, parce que ce sont les 4 qui se situent au croisement du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Volontairement, je ne fais pas de dessin. Parlons de la jouissance phallique. La jouissance phallique, c'est ce qui se situe au coinçage du symbolique et de l'imaginaire. Et il y a l'inhibition. L'inhibition qui consiste là, qui est perçue comme un envahissement du symbolique par l'imaginaire, elle vient en soustraction dans ce mode de jouissance. L'inhibition vient en soustraction à la jouissance phallique. Deuxième mode de jouissance, la jouissance de l'autre. C'est dans ce coinçage qui se situe entre le réel et l'imaginaire. Et qu'est-ce qui vient limiter la jouissance de l'autre? C'est le symptôme. Le symptôme, il envahit, qui est l'envahissement du réel par le symbolique, et qui vient limiter cette jouissance. Troisième mode de jouissance, celle que Lacan appelle jouissance, J-O-U-I-S, sens, ou jouit d'entendre sens. Là, c'est la constitution du sens. C'est le point entre l'imaginaire, c'est le coinçage entre le symbolique et l'imaginaire. C'est là que se constitue le sens. Et là encore, qu'est-ce qui vient limiter? C'est l'angoisse. L'angoisse, par l'envahissement de l'imaginaire par le réel, vient participer en soustraction à l'acquisition du sens. Et dernier mode, qui est l'objet de Tita, qui est plus de jouir, la mer verte, qui est l'articulation, le nouage entre réel symbolique imaginaire de la constitution à un instant donné du sujet. Et c'est comme c'était dit un peu ce matin, c'est la plus-value qu'acquiert l'analysant au sortir de sa séance. Voilà.
La jouissance de l'autre,
c'est cette part féminine, hein, comme ça a été indiqué plusieurs fois. C'est là où le réel, c'est là où l'imaginaire. Vous voyez, c'est pas évident, hein. C'est là où le réel et l'imaginaire...
Génitif objectif ou génitif subjectif?
Eh oui.
Génitif objectif ou génitif subjectif?
Jouissance de l'autre.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire je jouis de l'autre ou ça veut dire c'est que l'autre jouit?
C'est l'autre qui jouit.
C'est l'autre qui jouit, alors génitif,
subjectif.
Voilà, eh bien ça reste une énigme. C'est pour ça que Lacan dira « la femme n'existe pas ». Il n'y a pas de « la femme ». C'est une, chacune différente.
Merci voilà. Beaucoup,
Philippe Julien.
Merci beaucoup,
Philippe Julien.
Merci aussi.
Excusez-moi, un cocktail. Un cocktail.
Un cocktail.